Eh bien, c'est bon, on peut y aller, nous commençons. Donc, séance du 9 mai 2023, dernière séance consacrée à la lecture d'Évolution créatrice d'Henri Bergson. Alors, cette dernière séance doit essayer de résoudre la quadrature du cercle. C'est-à-dire, il s'agit de rendre compte de l'ensemble du chapitre 2, dont nous n'avons lu que le début, lors de la dernière séance. Alors, on ne peut pas poursuivre cette lecture progressive hein, que nous avons menée, si nous voulons donner une idée d'ensemble du chapitre, et même de l'œuvre. Et pourtant, vous mesurez bien que le texte est très dense, et que c'est vrai qu'il s'éclaire grâce à une lecture assez progressive, c'est vrai. Et on risque, en voulant survoler, d'en faire une présentation superficielle et du même coup assez obscure, au bout du compte, si on pratique donc une lecture de survol. Alors, c'est le problème. Comment donner l'idée juste et suffisamment claire du chapitre sans se limiter à une lecture qui soit pas à pas? Donc, je vais être forcément contraint de survoler un certain nombre de passages, de les résumer, afin de focaliser l'attention sur des pages qui me paraissent importantes. Et évidemment, je vais laisser dans l'ombre des passages importants aussi, hein, mais sur lesquels je ne peux pas insister. Alors, je retiendrai surtout trois extraits, je vous les présente. D'abord, il y a une première série d'extraits, hein, ce que vous avez sous les yeux. Une première série d'extraits, bas de la page 115, collection Cadrige, Presse universitaire de France. Hein, c'est les pages de ce livre-là. Donc, bas de la page 115, moitié de la page 116, et puis un deuxième qui part de la page 126 et qui va à la page 127, il est beaucoup plus court. Alors, je présente. Le premier montre, mais on va évidemment expliquer, hein. Je présente simplement. Il montre comment la vie se dédouble en vie végétale qui emmagasine de l'énergie par la fonction chlorophyllienne. Donc, la vie se dédouble en une vie végétale qui emmagasine de l'énergie et puis une vie animale qui dépense cette énergie de manière discontinue par des mouvements de locomotion. Le premier texte, c'est ça. Le deuxième, donc page 126-127, il montre comment le progrès du système nerveux dans les organismes supérieurs et le progrès du cerveau permet à la fois une précision accrue du mouvement et aussi une plus grande latitude laissée à l'être vivant pour choisir entre ces mouvements. C'est ainsi que, comme l'explique Bergson dans ce texte, la vie, mais on comprendra cette formule, insère de l'indétermination dans la matière. C'est-à-dire que, pour le dire d'une autre façon, tout simplement, le système nerveux libère la conscience en lui offrant le choix entre plusieurs mécanismes. Voilà. C'est-à-dire que, vous voyez, le système nerveux, la complexité du système nerveux va permettre à la conscience, finalement, d'apparaître. Et puis, alors, le deuxième extrait, donc, qui est de loin le plus long, qui va de la page 132 à la page 144. Alors là, il s'agit, dans ce très long extrait, de comprendre comment la vie, donc la vie, leur vitale, hein, comment la vie s'est partagée entre plusieurs lignes d'évolution divergentes, en rencontrant la résistance de la matière. Alors, d'abord, elle se divise en vie végétale et en vie animale, c'est ce que je viens de dire, et puis ensuite, elle se divise en instinct et en intelligence. Et il s'agira surtout ici d'aborder cette seconde division, ce second dédoublement. Et on verra que instinct et intelligence se séparent en tant qu'ils sont deux méthodes différentes d'action sur la matière. Et c'est cette division qui permet à Bergson de redéfinir l'homme, non plus comme homo sapiens ou animal rationnel, comme le dit la tradition, mais comme homo faber, c'est-à-dire homme qui fabrique, homme fabricateur, fabricateur d'outils. Et ça, c'est très important. Et puis le troisième, le dernier extrait, page 182, jusqu'à la fin du chapitre, permet de réfléchir sur le sens de l'évolution. Le sens de l'évolution, c'est ici, pour la question qui va se poser, c'est pourquoi l'homme, qui n'est qu'un produit d'évolution, qui s'inscrit dans la continuité des vivants, pourquoi, avec lui, y a-t-il, comme le dit Bergson, un saut brusque de l'animal à l'homme. C'est-à-dire qu'il y a apparemment une forme de discontinuité, alors que hein, s'il y a de la vie, il y a de la continuité, mais là, il y a comme une discontinuité qui apparaît avec l'émergence de l'homme. Alors, c'est ça qu'il va falloir essayer de comprendre. Et pourquoi l'homme occupe-t-il dans l'évolution une place privilégiée? Voilà, c'est ça les trois grands groupes de textes que j'ai sélectionnés. Dans mon propos, je n'irai pas nécessairement progressivement de l'un à l'autre. Vous verrez par exemple que je mobiliserai assez vite le dernier extrait hein, pour revenir ensuite à des textes antérieurs. Bon, alors, on y va. Donc, comme nous l'avons vu lors de la séance précédente, le mouvement d'évolution est comparable à un obus. Vous vous souvenez de l'image ? À un obus qui explose en fragments, lesquels, à leur tour, explosent en d'autres fragments. Vous voyez l'image, hein, c'est une image, hein, bien sûr. Ou alors, il y a une deuxième image qu'utilise Bergson, l'image de la gerbe. C'est-à-dire que le mouvement d'évolution ressemble aussi à une gerbe qui se développe en plusieurs directions, hein, des directions divergentes. Alors, pourquoi cette fragmentation, pourquoi cette division de l'élan vital, hein, c'est ça la question. Eh bien, la réponse, et ça, je résume ce qui avait été dit la dernière fois, parce que l'élan vital est fini, ça veut dire limité intérieurement. Il est limité intérieurement, c'est-à-dire que en grandissant, il peut pas effectivement rester un, il se divise. Et il se dédouble au cours de son développement en rencontrant la matière. Hein, c'est ce que nous avons vu surtout la fois dernière. Alors, pour essayer de comprendre ce que veut dire Bergson en disant que l'élan vital est fini, limité intérieurement, bien, supposons qu'il soit illimité. S'il était illimité, il serait une pure activité créatrice. Il serait un pur courant de conscience, une pure force immatérielle qui se passerait de la matière. Or, ce que veut indiqué Bergson, c'est que, au fond, qu'est-ce que c'est que la vie ? C'est un courant de conscience, c'est une force immatérielle qui s'insère dans la matière, qui a besoin, au fond, de la matière comme tendance antagoniste, qui a besoin de la résistance de la matière, au fond, pour se matérialiser. Hein ? Vous voyez, c'est un courant de conscience qui a besoin de la résistance de la matière pour se réaliser, pour se matérialiser, en traversant la matière. Alors forcément, il se limite et en rencontrant des obstacles et il se divise hein, en plusieurs voies. Et parce que l'élan vital est fini, je rappelle ce qui avait été dit, la vie est tendance. Hein, c'est une expression que vous avez au début du chapitre 2. La vie est tendance. Et le mot est très important. Je dirais même que c'est un des termes les plus importants de la philosophie de Bergson. C'est-à-dire que c'est une tendance, la vie est une tendance au sens où elle est un mouvement qui a besoin de la résistance de la matière pour se matérialiser. Il a besoin de quelque chose qui s'oppose à lui pour se matérialiser, pour se réaliser. Vous voyez ? Et donc, c'est un mouvement qui a besoin d'une résistance. Et la notion de tendance, je répète, est très importante. Et qu'est-ce que c'est qu'une tendance ? C'est un mouvement qui ne va jamais jusqu'au bout de lui-même, puisqu'il est toujours quelque part arrêté par un obstacle, vous voyez ? Donc, c'est une tendance. Et vous vous souvenez, au début du chapitre 2, Bergson disait que la vie est une tendance qui porte en elle, originellement, un équilibre instable de tendance. C'est-à-dire que la vie comporte en elle plusieurs tendances, mais qui sont mêlées, qui sont fondues. Et en se développant, eh bien, cette multiplicité de tendances qu'elle renferme en elle, eh bien, ces tendances vont se séparer. Elles vont se séparer et devenir antagonistes. Vous voyez ? Donc, c'est ça l'image de la gerbe. Hein ? L'image de la gerbe. C'est-à-dire que la vie, en croissant, en grandissant, eh bien, elle se sépare en plusieurs directions. Vous voyez ? Il y a un même élan originel qui est à la même source unique, qui est à l'origine de plusieurs tendances qui vont se diviser. Alors, ainsi, vous avez la vie végétale, qui se caractérise par la torpeur, c'est ce que nous allons voir. Vous avez la vie animale, qui se caractérise, au fond, par la mobilité et l'instinct. Et puis, vous avez ensuite l'intelligence, qui va s'opposer à l'instinct. Vous voyez, vous avez trois directions principales. C'est-à-dire, le titre du chapitre l'indique, torpeur, instinct, intelligence. Bon. Mais, alors ici, si on veut vraiment bien comprendre ce que dit Bergson, il faut se débarrasser d'une idée fausse qu'on serait tenté d'avoir et qui nous vient du philosophe Aristote. Même si nous ne connaissons pas Aristote, nous sommes imprégnés de philosophie aristotélicienne. Vous êtes des aristotéliciens sans vous en rendre compte. C'est-à-dire que, traditionnellement, la vie végétale, la vie animale, la vie rationnelle sont considérées comme des facultés qui sont données naturellement. Vous voyez, il y a trois genres de vie, mais elles seraient déjà données naturellement. Or, ce que veut au contraire montrer Bergson, c'est que ces types de vie, hein, ces directions, sont engendrées. Elles ne sont pas données au départ. Elles sont engendrées par l'évolution. Et elles sont engendrées par l'évolution en tant que la vie se divise, encore une fois, en plusieurs directions, en plusieurs tendances. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il va falloir comprendre ici que dans la philosophie de Bergson, tout est en mouvement. Tout est mouvement dans la philosophie de Bergson. Il n'y a rien de statique. Donc, au fond, ce que nous croyons être des propriétés innées, des propriétés naturelles, eh bien, elles ne sont pas données, elles ne sont pas innées, elles sont engendrées au cours de l'évolution par un processus de division de l'élan vital. Alors, c'est pour ça que je pense que, pour être plus clair, il faut bien rappeler ce que dit Aristote, c'est pas compliqué. Et pourquoi il faut le rappeler ? Parce que, selon Bergson, la théorie aristotélicienne, la philosophie d'Aristote, continue à influencer les théories d'évolution de son époque. C'est pour ça que, autant présenter l'erreur, finalement, qui nous vient d'Aristote. Les trois formes de vie, hein, végétale, animale, rationnelle, sont pour Aristote des niveaux de vie, des degrés du vivant. Et c'est comme ça qu'il en parle dans son grand traité, le traité de l'âme, qui est son traité biologique. Étant entendu, et je le rappelle, que la notion d'âme, pour Aristote, n'a pas de sens spirituel. L'âme, c'est le principe vital. Hein, l'âme, c'est anima, hein, c'est ce qui fait qu'un corps est en vie, il est, ce qui fait qu'il est animé. Voyez, c'est ça que veut dire la notion d'âme. Donc il y a trois types d'âme, végétative, sensitive, intellectuelle, rationnelle. Et trois types de facultés qui sont hiérarchisées au sein du vivant. Au plus bas degré, vous avez la vie végétative, l'âme végétative, qui désigne tout simplement, chez tous les êtres vivants, la faculté de se nourrir, de grandir et de dépérir. C'est-à-dire que les hommes, les animaux et les plantes possèdent tous l'âme végétative. Hein, c'est ça. Bon. Un degré supérieur, vous avez l'âme sensorimotrice, qui n'existe que chez les animaux. Parmi les animaux, il y a l'homme. Donc, évidemment, la plante n'a pas cette âme. Hein. On est ici à un degré supérieur. Vous voyez, l'animal a l'âme végétative plus l'âme sensorimotrice. Et puis, au sommet de la hiérarchie, vous avez l'âme intellective, la faculté intellective, tout simplement la faculté de penser, le logos, comme on dit en grec, que seul l'homme possède, et qui permet de le définir comme l'animal rationnel, puisque la tradition présente l'homme comme l'animal pourvu de logos, pourvu de raison. Vous voyez ? C'est-à-dire que l'homme, à la fois, il a l'âme végétative, l'âme sensorimotrice, donc, comme il est un animal, mais il est un animal qui a en plus la raison. Et voilà comment les choses sont présentées. Alors, c'est très longtemps, c'est cette tradition-là hein, qui a prévalu. Et pour Bergson, effectivement, c'est encore une théorie qui inspire les théories d'évolution, même les plus modernes hein, de son époque. Alors, la grande erreur d'Aristote, va dire Bergson, et vous avez ça, c'est exprimé page 3, en haut de la page 3, hein, en caractère gras, je veux dire carrément le texte, hein, avec vous, ligne 57 à 61. L'erreur capitale, celle qui, se transmettant depuis Aristote, a vicié la plupart des philosophies de la nature, est de voir dans la vie végétative, dans la vie instinctive et dans la vie raisonnable, trois degrés successifs d'une même tendance qui se développe, alors que ce sont trois directions divergentes d'une activité qui s'est scindée en grandissant. La différence entre elles n'est pas une différence d'intensité, ni plus généralement de degré, mais de nature. Donc voilà, hein, ici, ce passage est très important, hein, et il faut le prendre en considération si on veut suivre la démarche de Bergson. Donc, on ne va pas faire comme Aristote, comme on fait traditionnellement. On ne va pas voir dans la vie une sorte de processus qui se déploie par degré de complexité croissant. Vous voyez ? Non, on va considérer que la vie, c'est un processus qui a sa source est unique, mais qui va se diviser, qui va se développer en se divisant. Hein, c'est un processus. Les choses qui apparaissent, elles sont engendrées par un processus de division. Ça, il faut bien avoir ça en tête. Hein. Alors, donc, vous avez une souche commune, trois directions. Bon. Alors maintenant, justement, si vous voulez comprendre la nature de l'homme, si vous voulez savoir ce qu'est l'homme, eh bien, il faut que vous en fassiez la généalogie. Vous ne pouvez pas considérer l'homme comme un être qui serait immuable, comme un être dont les sens seraient donnés naturellement. Hein. Non, il faut, pour comprendre l'homme, faire la généalogie de l'homme à partir du processus qu'il a engendré, du processus de division qu'il a engendré. Et à ce moment-là, si vous faites comme ça, c'est ce que va faire Bergson, eh bien, vous cesserez de penser que l'intelligence est une faculté théorique, une faculté de connaissance, qui distingue originairement l'homme des autres animaux. Vous cesserez de le définir comme un animal rationnel, comme un homo sapiens, et vous comprendrez que son apparition résulte d'une division, du mouvement de l'évolution, en deux tendances qui sont l'intelligence et l'instinct. Et c'est comme ça que vous allez comprendre les choses. Et vous verrez que le problème qui se posera à un moment donné de l'évolution, eh bien ce sera le suivant. Comment le vivant va-t-il agir sur la matière brute? Eh bien, vous verrez qu'à ce problème, il y a deux solutions divergentes. Il y a la solution de l'instinct et il y a la solution de l'intelligence. Alors, originellement, je répète, les tendances qui se divisent, qui sont antagonistes, sont unies. Elles ont une souche commune, elles sont unies dans cette souche commune. Et c'est pourquoi chacune des tendances particulières, hein, se trouve continuellement mêlée à une tendance antagoniste qui subsiste sous forme virtuelle. Je vais m'expliquer en prenant les cas. Par exemple, le végétal, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Le végétal et l'animal sont deux tendances. Ce sont deux tendances qui ne peuvent entièrement s'émanciper l'une de l'autre. Elles divergent, mais elles ne peuvent pas totalement s'émanciper l'une de l'autre. Et comme on l'a vu la dernière fois, avec l'exemple des plantes insectivores, avec l'exemple des parasites animaux qui sont figés dans l'immobilité comme les plantes, eh bien, il y a quelque chose d'animal dans le végétal, et il y a quelque chose de végétal dans l'animal. Vous n'avez jamais un animal pur, vous n'avez jamais un végétal pur. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est difficile de définir les végétaux et les animaux de manière tranchée. Vous voyez ? La différence est dans les proportions, comme dit Bergson. Et ce qui est vrai des plantes et des animaux, eh bien vous verrez que c'est vrai aussi de l'instinct et de l'intelligence. Et là, regardez par exemple ce que dit Bergson, page 3 toujours, ligne 72-73, même chose, hein. Mais c'est vrai, cette fois-ci, ça s'applique à l'intelligence et à l'instinct, ligne 72-73. Ainsi, c'est en caractère gras, ainsi, pour l'intelligence et l'instinct, il n'y a pas d'intelligence où l'on ne découvre des traces d'instinct. Pas d'instinct surtout qui ne soit entouré d'une frange d'intelligence. Vous voyez ? Voilà, c'est toujours mêlé, vous voyez ? La tendance antagoniste est mêlée. Hein, voilà. Et là encore, sur ce point, Bergson nous met en garde contre l'erreur qui vient d'Aristote, qui consiste par exemple à voir dans l'instinct animal une intelligence affaiblie. Vous voyez, quand vous définissez l'instinct comme un degré inférieur d'intelligence, vous êtes dans une conception qui est celle d'Aristote. Et à ce moment-là, vous considérez que l'instinct et l'intelligence sont du même ordre. Ils ne sont pas de même degré, mais ils sont du même ordre. Et là, regardez ce que dit Bergson, ligne 74 à 77. Hein. De ce que l'instinct est toujours plus ou moins intelligent, eh bien, on a conclu qu'intelligence et instinct sont choses de même ordre, et qu'il n'y a entre eux qu'une différence de complication ou de perfection, et surtout que l'un des deux est exprimable en termes de l'autre. Non, il ne s'agit pas d'une différence de degré, ce sont des choses vraiment naturellement différentes. Vous voyez ? Il y a une différence de nature. Donc, si vous procédez comme Aristote, si vous pensez en termes de degré, ben vous méconnaissez la différence profonde entre l'instinct et l'intelligence, et à ce moment-là, vous risquer de tomber dans la tentation de faire de l'intelligence la norme suprême de la vie, le sommet de la vie. C'est ce que fait Aristote. Hein. L'intelligence, c'est le sommet de la nature. Hein. Alors que l'intelligence, ce n'est qu'un résultat partiel de l'évolution. Ce n'est qu'un résultat partiel de l'évolution. Et donc, l'évolution, elle a d'autres branches, tout simplement. Et donc, si vous faites comme le font souvent les théoriciens d'évolution qui sont imprégnés d'Aristote, eh bien, vous risquez de voir en l'homme, au fond, un couronnement de l'évolution. Un couronnement d'évolution. C'est ce vers quoi, au fond, il serait l'accomplissement. Hein, ce en quoi la nature, au fond, s'accomplit au mieux. Hein, voilà. Eh bien, non, on ne peut pas raisonner comme ça. Alors maintenant, reprenons très brièvement, parce que là, je ne vais pas reprendre, ce que nous avons dit de la différence du végétal et de l'animal la dernière fois, pour voir justement, alors d'une part pour voir comment se produit le processus d'évolution en germe, et en nous appuyant sur cet exemple, nous pourrons comprendre, nous pourrons aller à la fin du texte et comprendre en quel sens, dans quel sens va l'évolution. Vous voyez, je prends appui sur la division entre le végétal et l'animal pour essayer de cerner le sens de l'évolution. Ça sera la fin de l'ouvrage, hein, ici. Alors, donc, vous vous souvenez, la divergence qui sépare le végétal de l'animal s'accuse d'abord dans le mode d'alimentation. Je ne reprends pas. Hein, parce que... Non, il ne faut pas reprendre. Sinon... Tant pis pour vous si vous n'avez pas saisi. Vous serez renvoyé au texte. Première divergence, donc, dans le mode d'alimentation. Cette première divergence entraîne une seconde divergence dans le mode d'action. Et cette deuxième divergence dans le mode d'action va entraîner une troisième divergence dans le mode d'être. Alors, je reprends un peu tout de même. Première divergence. Le végétal emprunte directement à l'air, à l'eau et à la terre les éléments nécessaires à l'entretien de la vie. Hein? Bon, c'est simple. L'animal, lui, au contraire, ne peut pas s'emparer de ces mêmes éléments directement. Il ne peut s'en emparer que s'ils sont déjà fixés pour lui dans des substances organiques. Donc il a besoin de manger du végétal. Vous voyez ? Bon. Alors ça, c'est facile. Deux modes d'alimentation distincts, opposés. Deuxième divergence, le végétal, lui, peut rester fixe, alors que l'animal, au contraire, a besoin de se mouvoir puisqu'il doit chercher sa nourriture. Il doit rechercher sa nourriture. Troisième divergence, parce qu'il est fixe, le végétal est dans la torpeur, il est inconscient, hein, alors que c'est là son mode d'être. Et parce qu'il est mobile, au contraire, l'animal devient sensible au monde qui l'entoure, il doit s'y orienter, et par conséquent, la conscience s'éveille en lui. La conscience s'éveille en l'animal. Vous voyez ? Et donc, si je résume... Pas de conscience sans mobilité, pas de mobilité sans un certain mode d'alimentation. Et je vous l'avais dit, au premier abord, et c'est pour revenir là-dessus, au premier abord, on serait tenté de tout expliquer en termes d'adaptation à des circonstances extérieures, comme Darwin. On serait tenté d'expliquer tout de manière mécaniste, comme Darwin. Hein. C'est-à-dire, au fond... Pour Darwin, l'explication, c'est, eh bien, c'est parce qu'il y a un déficit adaptatif de l'animal qu'il est obligé de se mouvoir et que la conscience va apparaître. Non, ce n'est pas l'explication de Bergson. Ce n'est pas l'explication de Bergson. En réalité, pour Bergson, il y a dans le processus que je décris, il y a un progrès Il y a un progrès qui révèle le sens profond de l'évolution. Et vous vous souvenez, je vous avais dit que dans le texte, il y avait un mouvement d'approfondissement qui invite à renverser l'ordre d'explication, celui que nous avons vu. Et si, en effet, j'explique, hein, si au premier abord, la conscience qui émerge avec l'animal, si au premier abord, elle semble résulter de la mobilité qui elle-même résulte du mode d'alimentation, hein, eh bien, si elle apparaît comme l'effet dernier de l'évolution, en réalité, elle s'avère être la cause profonde de tout ce mouvement qui mène à la recherche, de la recherche de la nourriture à l'émergence de la conscience. Ou pour le dire d'une autre façon peut-être plus claire, l'effet que constitue la conscience, puisqu'elle est, semble-t-il, produit par un certain nombre de causes, l'effet que constitue la conscience s'avère être la cause profonde des causes qui lui permettent d'émerger. Alors en fait, il y a un renversement, si vous voulez. L'effet, apparemment, vous avez une série de causes qui aboutit à l'essence de la conscience. En fait, ce que veut montrer Bergson, c'est que ce qui est à la fin, la conscience, est ce qui est le moteur du processus qui s'est enclenché. C'est-à-dire que c'est son émergence qui commande en réalité tout ce qui la précède, tout ce qui fait qu'elle va émerger. Vous voyez ? Bon, c'est comme ça qu'il faut envisager les choses. Et c'est bien d'ailleurs ce que va montrer le chapitre 2. Plus on va aller dans le vivant vers la mobilité et vers la souplesse, et plus la conscience va s'intensifier, plus elle va se libérer de la matière, et à la fin, elle va même apparaître comme telle. C'est-à-dire, au fond, ici, comprenez bien, je crois que c'est ça l'idée principale du texte. La vie, c'est un courant de conscience. Hein, c'est une force immatérielle qui est déjà présente dès le départ dans tout être vivant. Dans le protozoaire, dans l'amibe, dans tout ce que vous voudrez, il y a un courant de conscience. Puisque c'est ça qui fait la vie. Hein? Et ce courant de conscience s'insère dans la matière. Il traverse la matière, il l'organise. Il l'organise alors en passant par plusieurs étapes. Hein? Et ce courant de conscience, eh bien, il va de l'inconscience, la torpeur du végétal, jusqu'au degré le plus intense de la conscience qui apparaît avec l'homme. Vous voyez, c'est-à-dire que vous avez plus on évolue, plus l'évolution se produit, plus elle avance, et plus la conscience émerge. Au départ, elle est là, mais sans être, vous voyez, sans être opératoire, sans vraiment s'exercer. Et puis, avec l'animal, déjà, il y a une conscience. Puis avec l'homme, elle va s'intensifier. Vous voyez, c'est comme ça que Bergson décrit ici l'évolution.
Il n'y a pas une contradiction, parce que dans ce sens-là, l'homme est encore une fois au sommet de l'évolution.
Alors, bonne question. On va essayer de répondre à ça. Oui, vous avez raison. C'est vrai que... Ah, ben alors, qu'est-ce que c'est que ça, là, hein? Est-ce que... Bonne question. Alors, je ne vais pas vous répondre tout de suite. À mesure, en tout cas, que la conscience qui dirige le mouvement de l'animal, hein, puisqu'il n'y a pas de mobilité sans conscience, donc elle dirige le mouvement de l'animal, à mesure qu'elle s'autonomise, grâce, on va le voir, au développement du système nerveux de plus en plus complexe, à mesure qu'elle se libère du besoin qui arrime la vie de l'animal à la recherche de la nourriture, au départ, c'est ça, hein, la mobilité, c'est pour la recherche de la nourriture, c'est rien d'autre. Bon, à mesure, vous voyez, qu'elle se libère de cela, eh bien, elle s'intensifie, elle fait retour à soi intérieurement, et elle produit de plus en plus d'actes libres. C'est-à-dire qu'au fond, la conscience apparaît de plus en plus comme une puissance de choix et de création. Vous voyez, c'est comme ça que je décris, hein, l'évolution. Et qu'est-ce que montre donc le chapitre 2 ? Que le mouvement d'évolution n'est pas autre chose qu'un mouvement de libération de la conscience. Qui se révèle en l'homme ? Qui se révèle en l'homme ? Hein, la conscience se révèle en l'homme comme une puissance de choix et de création. C'est-à-dire, en fond, ce qui se produit en l'homme, ça ne vient pas de lui, ça vient d'un élan qui, au fond, se réactive en lui, en quelque sorte. Vous voyez, sa conscience, elle vient de plus loin, en quelque sorte, hein, d'un élan vital qui, je dirais, trouve sa forme la plus intense, en quelque sorte, à travers sa conscience. Mais on ne peut pas parler de la conscience de l'homme comme de quelque chose de séparé de cet élan vital dont il vient, hein, dont elle vient. Alors, c'est vrai que, je me souviens, Nicolas Bouchard nous avait parlé de ça, et c'est vrai que dans les deux sources de la morale de la religion, ce courant de conscience, Bergson l'appelle Dieu. Mais alors, attention, ce Dieu dont il est question, ce n'est pas un Dieu personne, ce n'est pas un Dieu intelligent, ce n'est pas un Dieu, une intelligence qui conçoit et planifie l'univers. C'est un Dieu, au fond, une sorte de source, hein, de source unique de qui est à l'origine de toute chose, de la matière, mais une source immanente, hein, de la matière, et qui, au fond, on trouve sa forme, oui, d'expression privilégiée en l'homme, effectivement, on peut avoir, enfin, il va falloir répondre à cette question. Et ce que je disais, moi, c'est vrai que ça ressemble, si on veut faire une comparaison avec un autre auteur, ce sera avec Spinoza, si vous voulez. Dieu Spinoza, c'est une sorte de moteur de l'existence, hein, qui s'exprime en chacun, enfin, oui, c'est comme ça. Hein. Alors, bon, sauf que, évidemment, Bergson est un peu plus proche de la religion au sens traditionnel que Spinoza. Hein. Bon, et donc là, je vous invite à regarder, à la fin du chapitre 2, justement, un extrait, page 5, où il s'exprime à ce sujet. Alors là, je prenais la ligne 2. C'est vers la fin du texte, hein, ça, vers la fin du chapitre. Tout se passe comme si... Ligne 2. On peut même commencer dès le départ. Hein. L'évolution de la vie envisagée de ce côté prend un sens plus net, encore qu'on ne puisse pas la subsumer à une véritable idée. L'intelligence est incapable de dire exactement en quoi elle est, en quoi elle consiste. Hein. Il y a toujours un échec de l'intelligence par rapport à ce qu'est l'évolution. Tout se passe comme si. Vous voyez, tout se passe comme si. Hein. Il prend une distance à l'égard de ce qu'il dit. Hein. Attention, hein. Prenez pas ça au pied de la lettre. Tout se passe comme si un large courant de conscience avait pénétré dans la matière, chargé, comme toute conscience, d'une multiplicité énorme de virtualités qui s'entrepénétraient. C'est les fameuses tendances originelles, hein, qui vont se séparer. Bon. Il a entraîné la matière à l'organisation, mais son mouvement en a été à la fois infiniment ralenti et infiniment divisé. Bon, je passe. Allez plus loin, à la fin du paragraphe. À la fin du paragraphe. Et qu'est-ce qu'il va montrer ? C'est que en se déterminant en intelligence, eh bien, la conscience se libère de la matière. Et regardez, elle se libère de la matière. Et regardez la dernière phrase là, du paragraphe. Une fois libérée, elle peut d'ailleurs se replier à l'intérieur et réveiller les virtualités d'intuition qui sommeillent encore en elle. Bon, je ne vais pas tout comprendre de ce que nous lisons ici, mais vous voyez bien ce qui se passe. C'est que la conscience apparaît de plus en plus comme ce qu'elle nous apparaît, hein, c'est-à-dire comme, au fond, une sorte de puissance intérieure, de choix, dont nous faisons l'expérience par la réflexion, hein, intérieurement. Bon, et ensuite, vous allez, ligne 19, ligne 20, c'est la suite. De ce point de vue, non seulement la conscience apparaît comme le principe moteur d'évolution, mais encore, parmi les êtres conscients eux-mêmes, l'homme vient occuper une place privilégiée entre les animaux et lui, il n'y a plus une différence de degré, mais de nature. En attendant que cette conclusion se dégage de notre prochain chapitre, montrons comment nos précédentes analyses la suggèrent. Et alors, ici, bon, on va plus loin. On prend la page 6. Oui, on va directement au dernier paragraphe de la page 6. En résumé, si l'on voulait s'exprimer en termes de finalité, il faudrait dire que la conscience, après avoir été obligée, pour se libérer elle-même, de scinder l'organisation en deux parties complémentaires, végétaux d'une part, animaux de l'autre, a cherché une issue dans la double direction de l'instinct et de l'intelligence. Elle ne l'a pas trouvée avec l'instinct et elle ne l'a obtenue du côté de l'intelligence que par un saut brusque de l'animal à l'homme, de sorte qu'en dernière analyse, l'homme serait la raison d'être, attention, c'est écrit au conditionnel, l'homme serait la raison d'être de l'organisation entière de la vie sur notre planète, mais ce ne serait là qu'une manière de parler. Il n'y a en réalité qu'un certain courant d'existence et de courant, il n'y a en réalité qu'un certain courant d'existence et le courant antagoniste. De là, toute l'évolution de la vie. Alors, là, il faut... Ah oui, il va falloir répondre à votre question. Donc, excusez-moi, l'extrait est un peu long, mais il suscite en tout cas deux questions. D'abord, premièrement, pourquoi personne parle-t-il d'un saut brusque de l'animal à l'homme ? Est-ce que cette affirmation n'est pas en contradiction avec l'idée d'une continuité des êtres vivants ? Hein ? C'est bien sûr la première question. Et puis, deuxième question, en quoi l'homme occupe-t-il une place privilégiée dans l'évolution ? Est-ce que Bergson ne tombe pas dans le finalisme qu'il reproche à Aristote et à ses successeurs en faisant de l'homme l'aboutissement de la vie ? Alors, c'est les deux questions, effectivement, qu'il faut poser. Alors, d'abord, première question, il y a un saut brusque de l'animal à l'homme. Pourquoi ? Parce que, comme l'explique Bergson, l'élan vital, le courant de conscience, l'élan vital reste prisonnier chez les animaux d'une matière qu'ils ne parviennent pas à dominer. Et les animaux ne parviennent pas à se libérer vraiment de la matière. Ils sont pris dedans, ils sont prisonniers dedans. L'animal reste pour l'essentiel prisonnier de mécanismes rigides. Et comme le dit Bergson, c'est page 180, je ne sais pas photocopier, chez l'animal, la conscience est comprimée dans une espèce d'étau. Il y a une inventivité animale, mais elle est limitée. Elle est limitée. Et on verra ça tout à l'heure. Et d'ailleurs, il y a dans le chapitre 3 un extrait très clair que je vais citer, où Bergson explique très clairement la différence qui existe entre la conscience animale et la conscience humaine. Il y a une différence radicale entre ces deux consciences. Et je lis son extrait. C'est page 264. Radicale aussi, par conséquent, est la différence entre la conscience de l'animal, même le plus intelligent, et la conscience humaine. Car la conscience correspond exactement à la puissance de choix dont l'être vivant dispose. Elle est coextensive à la frange d'action possible qui entoure l'action réelle. C'est-à-dire quand j'agis, je sais que j'ai d'autres choix possibles. Conscience est synonyme d'invention et de liberté. Or, chez l'animal, l'invention n'est jamais qu'une variation sur le thème de la routine. Et puis, je vais plus loin. Avec l'homme, la conscience brise la chaîne. Chez l'homme, et chez l'homme seulement, elle se libère. Donc voilà pourquoi il y a un saut. Un saut, évidemment, qui se produit dans le courant de la vie. Hein. Sur le fond, il y a une continuité. Mais c'est une discontinuité sur le fond d'une continuité, si vous voulez. Deuxième question, est-ce que Bergson ne revient pas à Aristote, au finalisme d'Aristote, en écrivant que l'homme occupe une place privilégiée dans l'évolution? Alors, je réponds, aucunement, parce que si vous regardez bien la manière dont il s'exprime, il utilise le conditionnel, il prend ses distances à l'égard de l'idée de finalité, il n'y a pas, et je vous renvoie au chapitre 1, il n'y a pas de finalité au sens où l'évolution serait la réalisation d'un programme, au sens où l'évolution serait la réalisation d'un plan qui serait conçu à l'avance. Ça, c'est clair et net. Ou alors, ce n'est pas la peine d'écrire l'évolution créatrice. Hein ? Il y a une évolution qui est imprévisible. Mais souvenez-vous de ce que nous disions lors de la lecture du premier chapitre. Rétrospectivement, par une lecture rétrospective, on peut dégager quelque chose comme un sens. Tout se passe comme si, vous voyez, dit Bergson. Il semble qu'il y ait un sens tout de même, oui. Il semble qu'on peut lire un sens dans l'évolution, mais ça, on ne peut le dire qu'après, pas avant. Vous voyez ? Et il y a un sens du mouvement d'évolution qui permet de dire qu'il y a comme une finalité. Mais évidemment, c'est de notre point de vue d'homme que nous le disons. Hein ? Nous ne pouvons pas faire autrement. Et le chapitre 2, il est écrit comme ça, hein, de cette manière-là. C'est-à-dire que l'homme, oui, occupe une place privilégiée, non pas au sens où il est l'aboutissement de la vie, mais au sens où, et c'est ça que veut surtout montrer Bergson, au sens où il manifeste l'élan vital. Il manifeste l'élan vital par sa conscience, en tant que la conscience est une puissance de choix et de création. C'est-à-dire, au fond, on va comprendre que l'espèce humaine, c'est une espèce créatrice. Alors, elle n'est pas constamment créatrice parce qu'il y a une tendance inverse, une tendance contraire, hein, comme il a dit, qui va exactement dans l'autre sens. Hein? Donc, il y a en l'homme une puissance créatrice qui s'exprime, par exemple, dans l'art. Vous voyez ? Et si on veut d'ailleurs comprendre toujours l'idée de création, c'est du côté de l'artiste qu'il faut effectivement la comprendre. Production de quelque chose d'absolument inouï, de nouveau. Bon, mais une espèce créatrice, mais qui peut très bien effectivement se figer dans des habitudes. Hein, il y a une tendance inverse. Hein, et jamais la puissance créatrice, d'ailleurs comme l'élan vital de manière générale, l'élan vital est fini. Eh bien, l'élan vital est fini aussi en l'homme, au sens où cette puissance créatrice qui le constitue va se heurter à la tendance antagoniste, à l'inertie. Hein, vous voyez ? Et donc, oui, effectivement, l'homme est une, je dirais, un être privilégié, il occupe une place privilégiée au sens où c'est, si vous voulez, en lui, par lui, que l'on découvre la puissance de l'élan vital. Et alors, souvenez-vous, il est parti de quoi au chapitre 1 pour comprendre la vie, il est parti de l'expérience de la durée intérieure. Hein, c'est par analogie avec la durée intérieure de la conscience qu'on a pu comprendre ce que pouvait être le mouvement d'évolution. Eh bien, là, on fait le chemin en sens inverse. Le mouvement d'évolution, si vous voulez, d'une certaine façon, il se traduit, justement, dans cette force créatrice, cette puissance créatrice qui est celle de la conscience. Hein ? L'homme est cette être qui invente et qui peut lui-même s'inventer. Bon, donc vous voyez en quel sens il le dit. Donc évidemment, là on pourrait me dire, il est allusif, et c'est vrai. Et c'est vrai que c'est dans le dernier livre, Les deux sources de la morale et de la religion, qu'il reprendra tout ça. Et c'est vrai que là, il ne va pas plus loin, hein, d'une certaine façon. Et c'est vrai qu'il faudrait aussi qu'on lise les deux chapitres qui viennent d'après. Bon, malheureusement. Alors voilà, donc c'est vrai que Nicolas Bouchard nous en avait un petit peu parlé la dernière fois. Bon. Bon, mais toujours est-il, hein, on comprend mieux maintenant, j'espère. Hein, et c'est-à-dire qu'il ne veut pas faire comme du Aristote parce qu'il tient compte de Darwin. C'est-à-dire qu'il montre qu'il y a des qu'il y a de l'adaptation, il montre que la vie se divise au contact de la matière, et c'est pour ça que au contact de la matière, elle doit s'adapter, et c'est pour ça qu'il y a des divisions. Donc effectivement, on tient compte de ça, et en même temps, il ne veut pas faire du Darwin non plus, qui lui explique tout en termes mécanistes. Hein, si ça existe, c'est parce que il y a eu contact avec les circonstances extérieures, et puis voilà, à ce moment-là est née telle espèce. Non, vous voyez, il joue de l'un contre l'autre, en quelque sorte, en permanence. Toujours est-il que la vie progresse donc en se divisant en tendances antagonistes, et comme vous avez pu le comprendre, elles ne sont pas toutes également porteuses de l'élan vital. Je veux dire par là que les plantes, la torpeur des plantes, n'est pas ce qui exprime au plus haut degré l'intensité de l'élan vital. Hein, on est d'accord. Donc, les plantes s'ankylosent dans la torpeur de l'immobilité. Alors que les animaux, au contraire, sont capables d'actions de plus en plus indéterminées. Hein. Il y a de la conscience, beaucoup plus chez les animaux. Et de la même façon, à la conscience endormie de l'instinct, une forme de conscience endormie que l'instinct, eh bien, s'oppose la conscience éveillée de l'intelligence qui trouve son plus haut degré de développement en l'homme. Vous voyez comment Bergson réfléchit. Alors, vous voyez, j'ai dû faire comme ça aujourd'hui, hein, pour que vous compreniez l'idée d'ensemble du texte. Évidemment, c'est un peu au détriment de la précision du texte, hein, par moment. Alors, comme nous allons le voir maintenant, de manière plus précise, c'est parce que les tendances divergentes sont antagonistes qu'elles sont également complémentaires. C'est-à-dire qu'ici, elles sont antagonistes et complémentaires. Et vous allez le voir d'abord avec la division de la vie en vie végétale et en vie animale. Mais ça, on n'avait pas vu ça la dernière fois. Et je le rappelle simplement, parce que ça c'est un point important si on veut comprendre le raisonnement de Bergson. Comme il l'avait expliqué au début du chapitre 2, la vie, donc c'est une force immatérielle, hein, qui s'insinue dans la matière, qui s'insère dans la matière, qui vient se greffer sur la nécessité des forces physiques pour les capter à son profit, et les utiliser, et pour y introduire, comme dit Bergson, la plus grande somme possible d'indétermination. S'il y avait de la matière, tout serait toujours pareil. Vous auriez de la nécessité absolue. On ne pourrait pas parler de liberté. Et qu'est-ce que fait que la vie, le courant de conscience qu'est la vie, il introduit de l'indétermination dans la matière. Et plus ce courant va s'intensifier, et ça va être le cas avec la conscience, et plus il introduira de l'indétermination. Qu'est-ce que c'est que l'indétermination dans sa plus haute expression? Ben c'est la liberté. Vous voyez ? La vie introduit de l'indétermination dans la matière. Et là, regardez page 1, le premier texte, lignes 6 et 7. Oui, c'est ça. J'ai mis en caractère gras. Tout se passera donc comme si l'effort de la vie, hein, l'effort c'est l'élan vital. Hein. Tout se passera donc comme si l'effort visait simplement à utiliser de son mieux une énergie préexistante qu'il trouve à sa disposition. Alors, retenez cette phrase qui peut-être ne vous paraît pas claire comme ça, mais qui va évidemment s'éclaircir. C'est-à-dire au fond, vous avez un élan vital, un effort, une poussée, hein, c'est ça l'élan vital, c'est une poussée, hein, va viser, comme dit Bergson, à utiliser de son mieux une énergie préexistante qu'il trouve à sa disposition. Cette énergie préexistante, elle vient de la matière. Et donc, vous allez voir ainsi que La vie, donc cet effort, cette poussée, va se caractériser par la dépense d'une énergie qu'elle a captée à son profit en s'insérant dans la matière. Cette énergie qu'elle a accumulée, qu'elle a captée à son profit, eh bien, elle l'a captée en s'insérant dans la matière. Et à partir de là, vous allez comprendre qu'elle va se dédoubler en une tendance qui consiste à emmagasiner l'énergie d'un côté, une tendance qui emmagasine de l'énergie, et puis une tendance opposée qui consiste au contraire à la dépenser. Une tendance qui consiste à emmagasiner l'énergie et une tendance opposée qui consiste à la dépenser, à l'utiliser. Et c'est ainsi que s'explique la division entre le végétal et l'animal. Vous allez voir comment. Qu'est-ce qu'il fait le végétal ? Le végétal, il fixe l'énergie solaire. Il fixe l'énergie solaire grâce à la fonction chlorophyllienne. Tandis que l'animal, qui se nourrit du végétal, dépend cette énergie dans des actions discontinues, dans des mouvements de locomotion. Donc, vous voyez, comme une sorte de spécialisation. Vous avez le végétal qui, lui, se charge d'emmagasiner l'énergie, et puis vous avez l'animal qui, lui, vient en quelque sorte consommer cette énergie et qui la dépense. Et c'est comme ça, comme la vie, si vous voulez, la vie c'est un processus unique, elle se divise en ces deux tendances, vous voyez ? C'est-à-dire que comprenez que le végétal c'est une tendance, encore une fois, et l'animal aussi. Et alors qu'est-ce qui se passe effectivement ? En absorbant dans leur partie verte l'énergie solaire, eh bien les plantes créent des réservoirs d'énergie. Les plantes, ce sont des réservoirs d'énergie. Des réservoirs d'énergie fixes. Leur fonction chlorophyllienne leur permet de fixer le carbone et d'en accumuler l'énergie. Ainsi, la vie végétative produit plus de nourriture qu'elle n'en a besoin et elle alimente par son excédent la vie animale, qui trouve alors comment dépenser l'énergie accumulée. Et pour le dire comme Bergson, il avait déjà employé, vous savez, cette métaphore, la plante se charge de fabriquer l'explosif. En accumulant l'énergie, elle se charge de fabriquer l'explosif. Et l'animal, lui, se charge de déclencher le détonateur pour faire exploser l'explosif. Pour libérer l'énergie. Voilà, c'est comme ça que les choses se passent, si vous voulez, comme ça que la vie se divise. Et au départ, comme dit Bergson, les premiers êtres vivants faisaient sans doute les deux. Ils avaient les deux fonctions en même temps. Et ligne 22 à 24, ligne 1, par exemple, ligne 22 à 24, ligne 1, nous devons présumer que les premiers êtres vivants on cherchait d'une part à accumuler sans relâche de l'énergie empruntée au soleil et d'autre part à la dépenser d'une manière discontinue et explosive par des mouvements de locomotion. Les abîmes, c'est comme ça qu'elles faisaient, quoi. Enfin, c'est les deux. Et puis effectivement, ces deux activités ensuite se séparent. Plus il y a développement, plus elles deviennent antagonistes, elles se séparent. Et à ce moment-là, vous avez donc la spécialisation des végétaux dans l'accumulation d'énergie et la spécialisation des animaux dans la dépense d'énergie. Ligne 29-31, regardez bien, ligne 29-31, ce qui est certain, c'est que le végétal a appuyé surtout dans le premier sens et l'animal dans le second. Mais si dès le début, la fabrication de l'explosif avait pour objet l'explosion, c'est l'évolution de l'animal, bien plus que celle du végétal, qui indique en somme la direction fondamentale de la vie. Vous voyez, la direction de la vie, elle va là. C'est plus du côté de l'animal. Et qu'est-ce qui constitue l'animalité à ce moment-là ? Qu'est-ce qui la constitue essentiellement ? Eh bien, comme l'explique Bergson, là, je ne vais pas photocopier ce passage, qu'est-ce qui constitue l'animalité ? La faculté d'utiliser un mécanisme de déclenchement. un mécanisme de déclenchement pour convertir en action explosive une somme aussi grande que possible d'énergie potentielle accumulée. Donc l'animal, il se caractérise par un pouvoir de déclenchement d'énergie, une énergie qui a été accumulée. Vous voyez, c'est ça, au fond, la fonction animale. Et précisément, le système nerveux, là je passe un peu sur certains développements, parce que sinon ce serait trop long, le système nerveux dans les organismes supérieurs, eh bien c'est le mécanisme de déclenchement qui met en mouvement l'animal. Et d'ailleurs c'est pour ça que l'organisme, tout le reste de l'organisme, doit se subordonner à ce mécanisme de déclenchement. C'est-à-dire qu'ici, personne, alors là, il y a vraiment des pages qu'un biologiste ou un médecin peut bien comprendre, mais c'est vrai que c'est plus difficile pour quelqu'un qui n'y connaît, enfin, qui connaît pas assez. Personne n'appuie sa démonstration sur la découverte de Claude Bernard, hein, premier grand médecin, premier grand physiologiste, sur la fonction glycogénique du foie. Bon, enfin, grosso modo, je résume, hein. Les différentes substances alimentaires se répartissent entre celles qui entretiennent le corps, les albuminoïdes, et puis celles qui fournissent aux tissus nerveux et musculaires l'énergie à convertir en mouvement ou en chaleur. Et ça, ce sont les hydrates de carbone, ce sont les graisses. Alors, l'important, dit Bergson, c'est que ces dernières, donc, eh bien, qui sont charriés, je cite, par le sang artériel sous forme de glucose, eh bien, l'essentiel, c'est que ces dernières soient distribuées de manière privilégiée dans les muscles et les nerfs, puisque l'animal, il doit dépenser de l'énergie, il doit déclencher. Hein, bon. Et à mesure que se développe le système nerveux se développe dans les organismes supérieurs, eh bien, son progrès s'effectue en un double sens. D'abord, vous avez une précision accrue du mouvement. Le mouvement devient de plus en plus précis. Et puis de l'autre côté, grâce au mécanisme du cerveau, et puis de l'autre côté, une plus grande latitude est laissée à l'être vivant pour choisir entre ces mouvements. C'est-à-dire que plus le cerveau va être complexe, plus il y aura possibilité de choix. Vous voyez ? Et par là, le système nerveux est solidaire de la conscience. Il est solidaire de la conscience, c'est-à-dire qu'il permet à la conscience de se libérer en s'affirmant précisément comme une puissance de choix. Vous lisez avec moi, page 1, les lignes 15 à 17. Non, c'est peut-être page 2 plutôt, non ? Attendez. Excusez-moi. Non, c'est pas ça. Je sais plus. C'est sur un système nerveux. Ah non, c'est à la fin, c'est au bas. Oui, c'est en bas. Un système nerveux, c'est le tout en bas. Un système nerveux, écrit Bergson, avec des neurones placés bout à bout, de telle manière qu'à l'extrémité de chacun d'eux s'ouvrent des voies multiples où autant de questions se posent, est un véritable réservoir d'indétermination. Et là, j'attire votre attention sur l'expression « réservoir d'indétermination ». C'est-à-dire, on a rencontré l'expression « réservoir d'énergie » pour les plantes. Là, vous avez une expression un peu parallèle. C'est-à-dire qu'un système nerveux, c'est un réservoir d'indétermination, c'est-à-dire que tout simplement, il laisse à l'animal la possibilité de choisir entre plusieurs mouvements. Vous voyez ? De la même manière que la plante est un réservoir d'énergie qui permet, au fond, à l'animal de s'alimenter pour ensuite dépenser l'énergie, eh bien ici, vous avez le système nerveux qui joue un rôle parallèle, hein. C'est un réservoir d'indétermination qui va permettre, le cerveau aussi bien sûr, qui va permettre au fond à l'animal de disposer d'une certaine autonomie de choix dans ses mouvements. Vous voyez, c'est ça l'idée. Donc, voilà. Hein, c'est... Alors, évidemment, ici je tiens à le dire, Bergson n'est pas matérialiste. Il montre qu'il y a un lien entre la conscience et le cerveau, mais ce n'est pas le cerveau qui est à l'origine de la conscience. Les représentations mentales ne s'expliquent pas par les mécanismes du cerveau. Elles ont besoin du cerveau, enfin, c'est dans Matière et Mémoire surtout qu'il explique ça, elles ont besoin du cerveau, effectivement, pour se matérialiser, mais le cerveau ne produit pas des pensées, ne produit pas des représentations. Hein, ça, c'est évidemment... Alors, bon, je ne vais pas trop développer ce point-là, mais vous voyez que... il montre simplement que le cerveau ouvre la voie à la conscience. Voilà. Et comme je le disais, la conscience est à l'œuvre dès le début. Elle, dans la plante. Et là, vous allez comprendre, c'est assez facile à comprendre. Dans la plante, elle est présente. On va me dire, quoi, une plante peut être consciente. Oui, elle est présente, mais comme conscience annulée, dit-il. Comme conscience qui ne peut pas émerger. Et il distingue, alors je n'ai pas photocopié ce passage, mais vous allez comprendre, il distingue deux espèces d'inconscience. Il y a une inconscience de la plante et il y a une inconscience de la pierre, mais elles ne sont pas du même ordre. Je cite Bergson. Celle qui consiste en une conscience nulle, ça c'est la pierre, et celle qui provient d'une conscience annulée. L'inconscience d'une pierre est une conscience nulle. La pierre n'a aucun sentiment de sa chute quand elle tombe. Vous voyez ? Alors que on peut parler d'une inconscience de la plante ou de l'animal qui agit instinctivement, au sens où il ne s'agit pas d'une conscience nulle, mais d'une conscience annulée. Et conscience annulée, ça veut dire qu'elle n'est pas absente, comme c'est le cas pour la pierre. Ça veut dire qu'elle est là, elle est déjà là, elle est déjà présente, mais dans l'impossibilité de surgir. Et la torpeur, vous voyez, l'immobilité de la plante empêche la conscience de surgir. Vous voyez ? Et un animal qui alors ce qui explique très bien Bergson, c'est un animal qui a une carapace, comme les crustacés, ben, il tend à devenir un peu comme une plante, il s'immobilise et il tombe dans la torpeur. Voyez, c'est-à-dire que plus un animal est mobile, et plus est souple, et plus effectivement, plus la conscience peut émerger. Voyez, c'est cette idée-là. Il le dit de façon plus précise, hein, évidemment. Mais donc on voit par là que la conscience, ce n'est pas la propriété d'un certain type d'être vivant. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Elle est coextensive à la vie. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas servir à établir une différence essentielle entre les directions prises par la vie, la plante, l'animal, l'instinct, l'intelligence, parce qu'elle se retrouve. Elle se retrouve dès le départ, elle est là dès le départ, et elle s'exprime à des degrés variables partout où il y a du vivant. Hein, partout où il y a du vivant, il y a de la conscience. Simplement, elle ne peut pas surgir là où il y a effectivement immobilité, là où il y a instinct. Par exemple, la conscience annulée, c'est une conscience neutralisée, si je peux me permettre cette expression. C'est une conscience neutralisée. C'est-à-dire ce que va montrer Bergson, c'est qu'elle ne surgit qu'au choc de l'obstacle. Et Bergson l'explique très bien. Je vais vous citer un petit passage qui n'est pas là, hein, mais qui me paraît important. Il prend l'exemple d'une conduite machinale. Quand vous avez une conduite machinale, vous êtes entièrement à ce que vous faites, vous n'y pensez pas. Vous n'y réfléchissez pas. Hein. Vous êtes entièrement dans ce que vous êtes en train de faire. Comme s'il s'agissait d'un instinct. Comme si vous étiez dans une sorte de torpeur. Bon. Eh bien, je cite Bergson. Quand nous accomplissons machinalement une action habituelle, quand le somnambule joue automatiquement son rêve, l'inconscience peut être absolue. Mais elle tient cette fois à ce que la représentation de l'acte est tenue en échec par l'exécution de l'acte lui-même, lequel est si parfaitement semblable à la représentation et s'y insère si exactement qu'aucune conscience ne peut plus déborder. La représentation est bouchée par l'action. La preuve en est que si l'accomplissement de l'acte est arrêté ou entravé par un obstacle, la conscience peut surgir. Elle était donc là, neutralisée par l'action qui remplissait la représentation. L'obstacle n'a rien créé de positif, il a simplement fait un vide, il a pratiqué un débouchage. Cette inadéquation de l'acte à la représentation est précisément ici ce que nous appelons conscience. Je commente un petit peu. Pour qu'il y ait conscience, vous voyez, il faut que la représentation, la perception, si vous voulez, il faut que la représentation ne colle pas à l'action. Il faut qu'elle ne soit pas bouchée par l'action. Et on comprend par là que l'obstacle rencontré dans l'action, finalement, est libérateur. L'obstacle est quelque chose de libérateur. Il permet à la conscience de surgir. Et il y a conscience à partir du moment où il y a un écart entre ce que je perçois et ce que je fais. Où je ne peux pas être entièrement collé à ce que je fais. À partir du moment où, comme dit Bergson, il y a inadéquation de l'acte à la représentation. Bon, prenons encore un exemple, si vous voulez. La conscience, elle ne peut pas surgir là où on agit avec assurance. Là où on agit avec assurance, par instinct, par habitude. Là, on est sûr de ce qu'on fait. On n'y pense même pas. Mais elle apparaît lorsque l'on se trouve face à une situation inédite à laquelle on cesse de répondre automatiquement. Et comme dit Bergson, la conscience signifie hésitation ou choix. Elle signifie hésitation ou choix. C'est-à-dire que c'est une lumière qui révèle qu'il y a d'autres actions possibles que celles que je fais, que celles que je vais faire. C'est-à-dire qu'il y a du possible qui entoure, voyez, le réel, avec la conscience. Je cite encore Bergson, là où l'action réelle est la seule action possible, comme dans l'état somnambulique ou plus généralement automatique, la conscience devient nulle. Voilà. Donc, vous voyez, ça vous permet de comprendre comment la conscience va émerger. Hein, vous voyez, de quelle manière elle va émerger. Et donc, après avoir montré comment la vie se divise d'abord entre deux tendances antagonistes et complémentaires que sont la vie végétale et la vie animale, eh bien maintenant, on va montrer comment l'intelligence et l'instinct s'opposent et se complètent. C'est la dernière grande partie, si vous voulez, du propos. Alors, je ne reviens pas sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, de leurs différences, qui ne sont pas une différence tranchée, puisque vous avez affaire à des tendances. Hein. Ni l'intelligence, ni l'instinct ne se rencontrent jamais à l'état pur. Vous avez compris ce point-là. Alors, qu'est-ce qui différencie l'instinct et l'intelligence? Ce sont, dit Bergson, c'est page 3, ligne 85-88, on va lire le passage, ligne 85. Or, la vie manifestée par un organisme est à nos yeux un certain effort pour obtenir certaines choses de la matière brute. On ne s'étonnera donc pas si c'est la diversité de cet effort qui nous frappe dans l'instinct et dans l'intelligence. Et si nous voyons dans ces deux formes de l'activité psychique, avant tout, deux méthodes différentes d'action sur la matière inerte. Donc, instinct et intelligence sont deux méthodes différentes d'action sur la matière inerte. Et comme il le dit plus loin, instinct et intelligence représentent deux solutions divergentes d'un seul et même problème. Alors, quel est le problème que rencontre le vivant ici ? Le problème, c'est celui de la conservation de la vie et de l'adaptation au milieu. tout simplement. Hein ? C'est le même problème. Sauf que ce problème, il peut être résolu de deux manières différentes, de deux manières divergentes. Et ces deux manières divergentes, ces deux méthodes divergentes, c'est l'instinct et l'intelligence. Ça veut dire aussi que l'une comme l'autre ont une fonction vitale. C'est-à-dire que l'intelligence s'explique par la biologie, de la même manière que l'instinct. Vous voyez, de la même façon. On ne peut pas comprendre l'intelligence indépendamment de sa fonction vitale, de sa fonction biologique. Ainsi, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Puisque c'est à elle, évidemment, qu'on pense le plus. L'intelligence, c'est cet instrument, oui, c'est un instrument, un outil, si vous voulez, que la nature, l'élan vital, met au service de l'homme pour agir sur son milieu et se conserver. Et se conserver en vie. Voilà. La nature a donné l'instinct à certains êtres, elle a donné l'intelligence à l'homme, au fond, pour se conserver et s'adapter à son milieu. Dès lors, on ne peut plus considérer, comme le fait la tradition, que la vocation de l'intelligence est spéculative. On ne peut plus considérer que l'intelligence est essentiellement une faculté de connaissance, puisque dans la tradition, c'est comme ça qu'on la présente. Souvenez-vous d'Aristote. Hein ? L'intellect, c'est la faculté qui permet de connaître, de contempler. Bon. La démarche essentielle de l'intelligence, c'est la fabrication d'outils artificiels. C'est la fabrication d'outils artificiels, et ce n'est que dans un second temps qu'elle peut se tourner vers elle-même, qu'elle peut se replier sur elle-même, dans une réflexion théorique. Ça, c'est dans un second temps. Mais au départ, l'intelligence, c'est une activité vitale, par laquelle, effectivement, nous fabriquons des outils pour nous adapter à notre milieu et nous conserver. Et c'est donc sa capacité technique, hein, c'est la capacité technique de l'homme, c'est la capacité d'invention technique de l'homme qui spécifie l'humanité. L'apparition de l'homme, c'est ce que va montrer Bergson, l'apparition de l'homme correspond à l'apparition des premiers outils. Et c'est la raison pour laquelle Bergson propose de redéfinir l'homme, non plus comme Homo sapiens, mais comme Homo faber. Je vous renvoie ici, page 3, ligne 96. Ligne 96. Voilà. À quelle date, hein, en caractère gras, vers le bas, à quelle date faisons-nous remonter l'apparition de l'homme sur la Terre? Au temps où se fabriquèrent les premières armes, les premiers outils. Et je vous propose d'aller plus loin, à la fin du paragraphe, c'est page 4, ligne 124-127. Page 4, ligne 127. Si nous pouvions nous dépouiller de tout orgueil, si pour définir notre espèce, nous nous en tenions strictement à ce que l'histoire et la préhistoire nous présentent comme la caractéristique constante de l'homme et de l'intelligence, nous ne dirions peut-être pas Homo sapiens, mais Homo faber. En définitive, l'intelligence envisagée dans ce qui en paraît être la démarche originelle est la faculté de fabriquer des objets artificiels, en particulier des outils, à faire des outils et d'en varier indéfiniment la fabrication. Alors voilà, ça c'est important, ça c'est évidemment Bergson est célèbre pour cette définition, cette redéfinition de l'homme comme Homo faber, et s'il est Homo sapiens, c'est parce qu'il est d'abord Homo faber. Hein ? Ça, il faut bien comprendre la priorité. Alors, la découverte, et là, évidemment, vous avez vu, Bergson s'appuie sur les travaux des paléontologues, la préhistoire. La découverte que fit le paléontologue Boucher de Perthes, dont le nom est cité ici, dans la carrière de Moulin-Quignon, eh bien, cette découverte suscita, dit-il, une querelle mémorable. Regardez, page 3, ligne 98-99. On n'a pas oublié la querelle mémorable qui s'éleva autour de la découverte de Boucher de Perthes dans la carrière de Moulin-Quignon. La question était de savoir si l'on avait affaire à des haches véritables ou à des fragments de silex brisés accidentellement. Alors, est-ce qu'il s'agissait vraiment de haches? C'est-à-dire de haches qui seraient fabriquées par l'homme. C'est ça la question. Eh bien, c'est une question qu'on ne peut pas trancher et qui n'a peut-être pas l'importance que l'on croit, si on lit bien ici Bergson. Qu'est-ce que veut montrer Bergson? C'est que le passage de la vie animale à la vie humaine, eh bien, ne s'est sans doute pas fait, ce passage ne s'est sans doute pas fait de manière tranchée, de manière brutale. Hein, et justement, si vous lisez le texte, vous allez comprendre. On peut en effet supposer que les premiers hommes qui utilisèrent des silex brisés accidentellement eurent d'abord l'idée que ces silex pouvaient être des outils avant d'en fabriquer eux-mêmes. Alors, avant d'être capables de fabriquer eux-mêmes des haches, eh bien, ils établirent sans doute d'abord, par inférence, un rapport entre l'effet produit par le silex, il coupe, il tranche, et puis l'usage qu'ils peuvent en faire s'ils se resservent du silex, s'ils reproduisent l'expérience. C'est-à-dire qu'ici, en répétant l'usage, en reproduisant l'expérience, la première fois ils ont rencontré par hasard que le silex, ils se sont aperçus qu'il coupait, après ils ont recommencé. Donc ils ont établi une inférence, ils ont fait un lien entre l'expérience passée puis l'expérience à venir. Hein, c'est comme ça qu'ils ont procédé. Eh bien, en répétant l'usage, eh bien, ils se sont servis du silex qu'ils avaient d'abord rencontré, probablement comme ça. Ils se sont servis du silex comme d'un outil. C'est-à-dire que, avant d'être capable de fabriquer, vous voyez, ils ont dû par inférence rencontrer des silex brisés qu'ils ont utilisés comme des outils. C'est-à-dire que c'est comme si l'utilisation avait précédé la fabrication, en quelque sorte. Hein? Donc, on voit par là que l'invention de l'outil ne s'est sans doute pas produite à partir de rien, ex nihilo. Elle est probablement née de l'usage répété du silex qui a été ramassé d'abord, hein, de façon circonstancielle. Et d'ailleurs, c'est ce qu'explique bien Bergson. Bergson le dit, il y a intelligence partout où il y a inférence. C'est page 3, ligne 108. Hein, ligne 108. Il l'écrit. Sans doute, c'est en caractère gras, sans doute, il y a intelligence partout où il y a inférence. Qu'est-ce que c'est qu'une inférence? C'est une relation entre deux choses. Bon. Eh bien, l'inférence établit un rapport, par exemple, entre l'expérience passée, j'ai constaté que le silex coupait, et puis l'expérience présente, il coupe à nouveau. Vous voyez? Bon, fait une inférence. Eh bien, l'intelligence, elle consiste à faire une inférence. Et par là, comme dit Bergson, elle est déjà un commencement d'invention. Vous voyez, l'inférence est un commencement d'invention. Pour se mettre à inventer, il faut déjà avoir fait une inférence, en quelque sorte. Et comme le constate, comme le dit Bergson, eh bien, vous avez une intelligence animale. On constate la présence d'une intelligence animale qui procède par inférence. C'est-à-dire que certains animaux témoignent par leur activité, comme il le dit, d'une pensée de la fabrication. Les singes et les éléphants sont capables d'employer à l'occasion un instrument artificiel, soit qu'ils arrivent à façonner eux-mêmes, une bradie, hein, soit qu'ils utilisent à leur profit un objet fabriqué par l'homme. Il y a, oui, une capacité de fabriquer chez certains animaux, il y a une certaine intelligence animale, c'est pas faux. Hein. Et les renards, je prends l'exemple des renards, eux, c'est un peu au-dessous, ils ne vont pas jusqu'à fabriquer eux-mêmes des instruments, mais ils reconnaissent un objet fabriqué comme un objet fabriqué, ils reconnaissent, ils savent très bien qu'un piège est un piège. Donc, il y a une inférence chez ces animaux. Alors, donc, c'est pour ça qu'on peut parler d'une intelligence animale dans la mesure où il y a inférence. Et c'est une inférence qui peut, dans certains cas, pour quelques rares animaux, aller jusqu'à l'invention. Donc, il n'y a pas une différence tranchée hein, entre l'intelligence animale et l'intelligence humaine. C'est pas si net. Seulement, comme le dit Bergson, encore une fois, dans le chapitre 3, dans le même extrait que je vous ai cité tout à l'heure, s'il y a capacité d'invention de l'animal, cette inventivité, dit-il, reste enfermée dans les habitudes de l'espèce. Je vous cite cet extrait, c'est facile à comprendre. « Chez l'animal, écrit Bergson, l'invention n'est jamais qu'une variation sur le thème de la routine. Enfermée dans les habitudes de l'espèce, il arrive sans doute à les élargir par son initiative individuelle, mais il n'échappe à l'automatisme que pour un instant. Juste le temps de créer un automatisme nouveau. » Vous voyez, c'est-à-dire qu'au fond, l'inventivité animale existe, mais elle n'a pas l'avenir, vous voyez. Elle retombe. En tout état de cause, comme ici l'explique dans notre texte, Bergson, l'intelligence devient complète quand elle se matérialise en un instrument fabriqué. Et c'est vrai que c'est l'intelligence humaine qui, pour l'essentiel, est capable de fabriquer des outils et elle se caractérise essentiellement par cette capacité d'invention technique. Vous voyez ? Ce qui se produit rarement, de manière très très limitée, avec l'intelligence animale. Puisque l'animal, pour l'essentiel, préfère l'instinct, il reste dans l'instinct. Bon, alors qu'est-ce que la différence, quelle est-elle entre l'instinct et l'intelligence ? L'instinct reste enfermé en lui-même. Il opère de manière immédiate, alors que l'intelligence, comme je l'ai dit, au contraire, elle sort d'elle-même, elle procède par inférence, elle établit des similitudes entre une expérience passée et puis une expérience présente, vous voyez, c'est comme ça qu'elle procède, et elle recherche, dans l'intelligence, il y a une recherche, si vous voulez. Alors, ces deux méthodes, puisque ce sont deux méthodes différentes d'action sur la matière, eh bien, recourent toutes les deux à des instruments. Dans les deux cas, il y a des instruments, mais, bien sûr, ces instruments sont de nature très différente. D'un côté, pour l'instinct, il s'agit d'instruments organisés, on peut dire aussi des organes. Mais ici, ces instruments organisés, ils font partie du corps de l'animal qu'il utilise. L'instinct est ainsi un mode d'action immédiat de l'animal sur la matière. Et sa structure est à peu près invariable et il est nécessairement spécialisé. Et de l'autre côté, il n'échoue pas. Et de l'autre côté, pour l'intelligence, il s'agit d'instruments artificiels fabriqués par l'homme, extérieurs à son corps. Et ici, alors là, c'est là la grande différence, c'est que l'outil humain ne s'inscrit plus dans le registre de l'immédiat, dans le registre du pur présent. On a affaire à une action médiate qui implique un rapport au temps, qui implique un rapport à l'histoire. Et là, regardez la distinction que fait Bergson, page 4, ligne 145-147, où il résume tout ça de façon claire et nette. Regardez bien. Page 4, ligne 145-147. C'est en caractère gras. L'instinct achevé est une faculté d'utiliser et même de construire des instruments organisés, l'intelligence achevée et la faculté de fabriquer et d'employer des instruments inorganisés. Donc, vous voyez, la différence, elle est claire. Alors, l'avènement, et je terminerai par là, l'avènement de l'instrument artificiel, l'outil rudimentaire, ensuite l'outil à fabriquer des outils, enfin, ça se complexifie de plus en plus, eh bien, l'avènement de l'instrument artificiel, en rompant avec l'immédiateté de la vie instinctive, eh bien, cet avènement entraîne une rupture qualitative considérable, dans la mesure où la faculté de fabriquer des outils implique avec elle la faculté de fabriquer des outils, à faire des outils, et d'en varier indéfiniment la fabrication. C'est ça qui est important. C'est qu'à ce moment-là, vous avez une variabilité, une inventivité considérable, ça ne s'arrêtera plus. Vous entrez dans un processus qui n'a pas de terme, voyez ? Vous entrez dans un processus historique où l'homme va ne cesser de se transformer son milieu. L'invention technique entraîne ainsi des transformations du mode de vie social des hommes. Et Derson va jusqu'à dire que l'invention technique entraîne des modifications de l'humanité. L'humanité, c'est une espèce qui se transforme, et qui se transforme essentiellement par son activité technique. Et la technique est à la base de l'humanité. Hein ? Et comme le dit aussi Berson, nous ne mesurons que tardivement, le plus souvent, les effets des inventions techniques. Regardez, ligne page 4, ligne 114, 118, page 4. Ligne 114, 118. Nous avons de la peine à nous en apercevoir, c'est-à-dire des influences des inventions techniques. Nous avons de la peine à nous en apercevoir parce que les modifications d'humanité retardent d'ordinaire sur les transformations de son outillage. Nos habitudes individuelles et même sociales survivent assez longtemps aux circonstances pour lesquelles elles étaient faites, de sorte que les effets profonds d'une invention se font remarquer lorsque nous en avons déjà perdu, de vue la nouveauté. Alors, il donne d'ailleurs l'exemple de la machine à vapeur inventée au XIXe siècle, dont on commence seulement à sentir les effets au début de ce XXe siècle. Or, que dire de l'ordinateur ? Que dire de l'ordinateur ? On est complètement bousculé. On est complètement inadapté. Moi, je pilote un peu, mais pas vraiment demander trop, quoi. J'ai du mal. Et on est plus la même espèce que les enfants. C'est plus la même humanité. C'est plus la même. On n'a plus rien de commun. Bon, donc, vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. Donc, il y a une transformation qui s'accélère en plus. Hein. Et alors, évidemment, là, je ne peux pas entrer dans toute la richesse du texte. Je terminerai juste par ces remarques qui sont assez courtes maintenant. Rassurez-vous. Donc, par son activité fabricatrice, donc, l'intelligence, elle s'assigne comme but d'organiser la matière. Hein, son but, c'est d'organiser la matière. Et comme dit Bergson, fabriquer, c'est son expression, consiste à tailler dans une matière la forme d'un objet. Tailler dans une matière la forme d'un objet. Et cette démarche, elle se généralise à tout. C'est-à-dire que, de manière générale, l'intelligence envisage l'ensemble de la matière, je cite, comme une immense étoffe où nous pouvons tailler ce que nous voudrons pour le recoudre quand il nous plaira. C'est-à-dire que, vous voyez, l'opération fabricatrice, elle s'étend à tout. Bon. Alors, et on voit par là qu'alors, au départ, hein, souvenez-vous, au départ, qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? Qu'est-ce que c'est que l'invention technique ? Elle est au départ, pour l'homme, le moyen de satisfaire ses besoins vitaux. On est d'accord ? Hein ? Mais, alors qu'elle est ça au départ, vous voyez que l'inventivité technique humaine, eh bien, permet d'échapper, justement, à la nécessité biologique. Elle était au départ faite pour ça, mais elle finit. Il y a un renversement qui s'opère, vous voyez ? C'est-à-dire que elle n'enchaîne plus, elle n'enchaîne pas l'homme aux besoins vitaux, au contraire, elle permet à l'homme de s'en échapper. Vous voyez ? Et puis on voit encore que cette inventivité technique permet de se jouer des lois de la matière, hein, en faisant de la matière un instrument à son service. Et la matière à laquelle on est d'abord asservi, on est d'abord limité à elle, hein, on doit effectivement faire avec elle, on doit composer avec elle, il faut s'adapter à elle. Bon, eh bien, l'inventivité technique permet, au fond, d'en faire un instrument. Et là, vous avez, regardez page 5, ligne 25 à 33, vous avez un texte assez remarquable, là, qu'il faut, je crois, bien lire. C'est un fait digne de remarque que l'extraordinaire disproportion des conséquences d'une invention à l'invention elle-même. Nous disions que l'intelligence est modelée sur la matière et qu'elle vise d'abord à la fabrication. Mais fabrique-t-elle pour fabriquer ou ne poursuivrait-elle pas involontairement et même inconsciemment toute autre chose? C'est-à-dire que l'invention n'est pas dominée par l'inventeur, quoi. Il y a un processus d'invention qui, vous voyez, qui lui échappe, comme si c'était l'élan vital, hein, qui se poursuivait à travers ce processus. Regardez bien. Fabriquer, alors je lis la suite. Donc, mais fabrique-t-elle pour fabriquer ou ne poursuivrait-elle pas involontairement et même inconsciemment toute autre chose? Fabriquer consiste à informer la matière, à l'assouplir et à la plier, à la convertir en instrument afin de s'en rendre maître. C'est cette maîtrise qui profite à l'humanité, bien plus encore que le résultat matériel de l'invention même. Si nous retirons un avantage immédiat de l'objet fabriqué, comme pourrait le faire un animal intelligent, si même cet avantage est tout ce que l'inventeur recherchait, il est peu de choses en comparaison des idées nouvelles, des sentiments nouveaux que l'invention peut faire surgir de tous côtés, comme si elle avait pour effet essentiel de nous hausser au-dessus de nous-mêmes et par là d'élargir notre horizon. Donc, vous voyez, si l'intelligence fabricatrice est d'abord invention mécanique, elle est aussi invention d'idées. Il y a un progrès technique, mais aussi un progrès culturel. Il y a un élargissement d'horizon. Et donc, quand vous définissez, et c'est là-dessus que je conclue, rassurez-vous, quand vous définissez l'homme comme homo faber, eh bien, vous montrez en fait comment l'homme, contrairement aux animaux, eh bien, il peut se rendre indépendant de la matière. Et c'est par cette indépendance de la matière, bah, qu'il devient libre. C'est ça sa liberté. Et qu'il élargit son horizon. Alors, vous voyez que la technique, c'est un instrument de libération, hein, qui permet à l'homme de se libérer des tâches pénibles, et pour Bergson, mais alors là, évidemment, c'est quelque chose que je ne développe pas, je ne peux pas, qui lui permet de réaliser sa vocation, sa destination métaphysique. Hein, alors, il y a une autre dimension, si vous voulez, qui, pour lui, évidemment, va être essentielle. Mais bon, les choses ne sont pas si simples, je suis obligé de m'arrêter là. Merci. Bon, il y a des tas de choses que j'ai pas dites, hein, dans le texte, hein. Puis je peux pas, c'est difficile. Les textes de Bergson sont vraiment, enfin, au début, on trouve ça, enfin, personnellement, hein, expérience. Oh là là. Et puis, en travaillant et en les lisant de près, je trouve que c'est assez extraordinaire. Même assez... c'est assez fort, quoi. C'est... voilà, je trouve que... J'ai jamais été séduit par les explications trop globales de Bergson, qui me paraissent trop... Mais quand on va dans le texte, précisément, ça prend une autre dimension.
Je voudrais partager... un vieux livre que j'ai lu qui s'appelle « Éloge de la plante » par Francis Hallé, écrit en 1999.
Un économiste ?
C'est un biologiste. C'est
un biologiste ?
Un biologiste qui obligerait peut-être Bergson à faire quelques mises à jour.
Alors là, mauvais procès. Mauvais procès.
Non, mais c'est juste parce que c'est intéressant de le lire, oui. Surtout dans une économie où il y a beaucoup de fer maintenant, et qui montre que la plante a effectivement plusieurs choses à apporter à l'humanité, et non pas simplement une vie dite végétative. Voilà.
Alors là, je suis pas d'accord.
Les plantes se déplacent.
Oui, mais ils le disent, personne.
Qu'elles transmettent ailleurs.
Mais elles le disent, ils le disent.
Oui, absolument.
Mais ils le disent, attention.
Ce que je veux dire, c'est pour quelqu'un qui voudra approfondir la vie végétative, ça c'est un bon livre. Voilà,
ah non, mais alors je vais répondre pour Bergson, parce que je me sens attaqué en Bergson. Bergson en moi se rebelle. Et je disais, c'est vrai que mon propos forcément est schématique, mais ce qu'il dit de la plante n'exclut absolument pas ce que vous dites. Parce qu'en fond, il y a de l'animal dans la plante, il y a de l'intelligence. La vie, comment dirais-je, se produit en des tendances. Donc, il parle beaucoup des plantes insectivores, des plantes carnivores, qui sont des exceptions, tout ça. Mais là, effectivement, j'ai dû aller vite. J'ai dû aller vite et ne pas entrer dans ces exceptions. Vous comprenez bien. Mais non, là, je crois que là-dessus, justement, ce genre de propos peut tout à fait conforter ce type d'analyse, à mon avis. Hein. Bon. Je sais bien qu'aujourd'hui, oui, il y a une philosophe qui s'intéresse beaucoup aux plantes. Là. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais non, de toute façon, maintenant, on est dans la sensibilité animale et déjà végétale.
Et quand c'est pas la matière, pensez aux éruptions volcaniques, la matière n'est pas inerte.
Ah ben non, bien sûr, bien sûr. Ah non, mais quand il y a une tendance, là aussi, c'est qu'est-ce qu'il dit de la matière ? La matière, c'est une tendance, c'est pas un état. Il y a rien n'est un état chez personne. La matière, c'est vrai que là il aurait fallu pouvoir continuer la lecture de Bergson pour essayer de comprendre ce qu'il entend par la matière. C'est-à-dire qu'au fond, vous avez une source unique qui est à l'origine de toute chose, hein, un élan vital, et y compris la matière procède de cet élan. Mais la matière, elle procède d'une sorte de dilatation, un phénomène de dilatation de cet élan. Alors qu'au contraire, l'élan est créatif et créateur quand il va dans le sens inverse. Bon, j'explique très mal, mais la matière, ce que nous constatons, ce que nous appelons la matière comme la matière brute, inerte, elle n'est pas elle-même purement et simplement inerte. C'est une tendance. C'est notre science qui a besoin de la penser comme ça, en tout cas. Elle a besoin de la penser comme ça. Bon, mais alors évidemment, là, il faudrait... Pour plus élaborer.
Vous n'avez pas employé le mot de sérendipité, mais vous en avez parlé. C'est quand vous parliez d'inférence. Là, c'est-à-dire, si par exemple je me coupe avec une pierre coupante, je vais dire tiens,
ça coupe.
Plutôt que de me couper moi, je pourrais découper de la viande et je vais faire en sorte de tailler une pierre.
Voilà.
Pour qu'elle soit coupante.
Voilà.
Mais donc, je me demandais, est-ce que l'élan vital ferait preuve de sérendipité ?
De C ?
Sérendipité. S-E-R-E-N-D-I-P-I-T-E.
Quelque chose, alors qu'on cherche autre chose.
On regarderait sur Internet.
Ah, bah là, dis-donc, j'apprends quelque chose.
Non, mais c'est ça. Par inférence, si vous voulez, mais oui. De découvrir un peu par hasard.
Alors,
d'être créatif, mais avec sagacité, c'est-à-dire de ne pas s'arrêter au hasard, mais dire tiens, je m'aperçois de quelque chose, je sens monter une idée.
L'intuition.
Ça c'est l'intuition au sens. Ce qu'on appelle l'élan vital, c'est ce courant qui est immanent à tout ce qui se produit et tout ce qui existe. Hein,
oui, mais sur sa manière de progresser en quelque sorte.
Il y a une progression, effectivement. Il y a une progression qui se fait au hasard des circonstances, un peu aussi. Hein, c'est-à-dire que là, le silex, je l'ai rencontré. J'aurais très bien pu ne pas le rencontrer.
Dans quelle catégorie il classe l'imprévu ou l'intuition, par exemple ?
Alors, l'imprévu, bah, de toute façon, l'élan vital, il est un élan créateur au sens où tout ce qui se produit est imprévisible. Il n'y a pas de plan qui préside à l'univers. Hein. Bon. Donc il y a un développement, il y a un élan vital, une source unique, une productivité de l'élan vital qui se diversifie, etc., en fonction des rencontres. Hein. Bon. Mais ce n'est pas prévisible. Ce n'est qu'après coup qu'on peut s'interroger sur le cours de cette évolution. Hein. Bon. Comme le fait ici personne dans le chapitre 2. Donc, voilà, l'imprévisible, il y a de l'imprévisible pour personne. Il y a de l'imprévisible, c'est clair. C'est pas une philosophie déterministe. Non pas qu'il récuse le déterminisme, il est valable à son niveau. La science est déterministe, bon, grossièrement. Hein. Mais, et d'ailleurs, c'est grâce à la science, grâce à l'intelligence qui a besoin de penser la matière d'un point de vue déterministe, que nous pouvons aussi agir sur elle. Hein, le déterminisme plutôt n'est pas un obstacle à notre liberté, il est plutôt le moyen pour notre liberté hein, de s'affirmer et d'agir sur la matière. C'est plutôt comme ça qu'il pense les choses. Alors maintenant, concernant l'intuition, ce qu'il appelle l'intuition, et c'est pas... vous voyez, l'afférence... Non, l'intuition, c'est ce... Alors là, j'en ai pas parlé. C'est vrai que... Et il en parle dans le chapitre 2. L'intuition, vous avez l'intuition de la durée, par exemple. C'est une connaissance intime de la chose que vous connaissez. Enfin, l'intelligence, elle est à l'extérieur. Elle étudie, elle établit des rapports. Elle étudie la matière d'un point de vue spatial. On a longuement dit ça. C'est très utile pour elle pour avoir pris sur les choses, pour agir efficacement. Donc l'intuition, c'est comme l'intuition de la durée. C'est une expérience vécue. Mais que l'intelligence est incapable de saisir la durée. Elle ne peut pas la saisir, elle ne peut pas saisir ce mouvement. Et donc nous sommes à la fois intelligents, mais il n'y a pas que l'intelligence en nous. Il y a cette intuition qui nous permet effectivement de découvrir cette autre dimension, cette dimension la plus profonde d'ailleurs, qui est celle du courant vital, celle de notre propre durée intérieure. Et la véritable connaissance pour Bergson, eh bien, elle allie les deux. Elle ne nie pas l'intelligence, hein, mais elle met l'intelligence aussi. Parce que l'intuition toute seule, c'est comme... Elle est obscure. Hein. Bon, elle ne débouche sur rien. Puisque la collaboration des deux... Non, on est dans une sorte de... Mais tandis que la collaboration des deux nous permet d'essayer de saisir le réel. C'est dans ce sens-là que Bergson élabore sa philosophie. Hein, une collaboration des deux. Mais là, évidemment, je vous dis, c'est pas... je préférais ne pas en parler, parce que sinon... c'est une des dimensions importantes. Il y a une complémentarité de l'intuition et de l'intelligence en l'homme. La philosophie de la vie qu'il propose dépasse, elle ne nie pas. La science, elle ne la nie pas. Elle a sa valeur, hein, mais il en propose le dépassement.
Est-ce que l'élan vital aurait produit le cerveau ? Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire
tout est produit par le
comme un instrument justement pour avoir conscience d'elle-même.
Alors l'élan vital, c'est cette source unique de la réalité, cette source unique qui produit tout ce qui existe.
Oui, on a du mal à voir ce que c'est que l'élan vital.
Dans le vivant, c'est le courant de conscience. Hein, c'est le courant de conscience qui traverse la matière, qui l'organise. Bon, c'est par rapport à la matière que ça devient plus compliqué. Mais ça, bon, on va laisser. Hein, parce que... Donc, c'est l'élan vital, c'est au fond un élan originel qui est présent dans toutes les choses vivantes. Mais selon des modalités différentes, c'est tout. Cet élan vital s'exprime par des tendances différentes selon les êtres.
Et il y a une différence avec la conscience ?
Et la conscience en nous est ce qui nous rapproche le mieux, ce qui nous permet le mieux de comprendre ce qu'est l'élan vital. Puisque l'élan vital est créateur. Et la conscience en nous, elle est créatrice. Vous voyez ? Donc l'élan, nous participons de l'élan vital par justement notre propre puissance créatrice. L'homme est cette être qui
crée.
Comment ?
La curiosité.
Plus que de la curiosité, c'est comme l'art, si vous voulez, c'est la capacité de produire du nouveau. Nous sommes des êtres capables de produire du nouveau. Vous voyez, c'est plutôt de ce côté-là qu'il faudrait chercher une idée de ce que peut être justement le caractère créateur de l'être humain, de l'espèce humaine. Mais voilà, c'est vers ça que personne va.
Elle
a conscience. Alors, c'est une supposition. Hein. C'est-à-dire que pour que la conscience émerge, il faut qu'il y ait quelque chose. Et ben, on passe pas de l'inerte au vivant. On passe pas. Il y a une continuité. Donc, c'est par conséquent, si la conscience émerge en l'animal, il faut qu'elle ait déjà été là quelque part. Mais sous une forme telle qu'elle ne pouvait pas effectivement surgir. Ah, c'est comme ça qu'il explique les choses. Hein. Il y a une torpeur. La torpeur, c'est l'inconscience.
Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait création de la conscience à un moment donné ?
Non, on ne parle pas de. Il n'y a pas de rupture. Voilà. Il y a une continuité. Il y a une continuité. C'est comme vous, de la même manière, vous ne passez pas du vide au plein. Quoi. C'est. Il y a toujours. Hein, il y a une continuité. On ne peut pas penser une discontinuité absolue. On ne passe pas du néant à l'être. Il y a toujours un courant.
Ce que j'aime, c'est le manque de finalité. J'aime bien ça. J'aime bien cette idée. On n'est pas toujours obligé d'aller plus haut. On peut aussi aller comme ça. Ça ne me dérange pas du tout.
Ah mais il y a une finalité rétrospective pour l'intelligence humaine. Non mais rétrospective, c'est-à-dire qu'une fois que...
Une fois qu'on a accompli quelque chose, on dit que j'ai accompli pour
ça. Voilà, il se dessine comme quelque chose, comme un plan, mais on ne peut pas effectivement parler de plan. Non, mais on voit bien, quand on retrace l'évolution, quand on retrace de façon hypothétique l'évolution, on voit quelque chose comme une direction. Voilà, c'est ça que veut montrer Bersotte. Mais il n'y avait pas de plan à l'avance. On ne peut pas parler de plan à l'avance. Si on considère qu'il y a un plan de la création, un plan d'univers, ça sous-entend qu'il y a une intelligence qui a conçu à l'avance les choses. Et à ce moment-là, on ne peut pas parler d'évolution créatrice. Si l'évolution est créatrice, c'est qu'elle produit du nouveau. Si, par exemple, si en revanche, on considère que l'univers est la réalisation d'un plan, ben, il n'y a rien de nouveau, tout est prévisible. Sauf que si, pour nous, si je pense que tout est prévisible, qu'il y a une intelligence qui a tout ordonné, l'imprévisibilité sera due à mon ignorance, c'est tout. Mais... Voilà, c'est... Mais pour le créateur, pour celui qui l'intelligence qui a conçu le monde, rien n'est imprévisible, tout est déjà conçu, tout est déjà pensé. Mais là, non, c'est pas du tout la conception de Bersotte. Et il prend au sérieux l'idée que le temps invente, le temps produit quelque chose de nouveau. Alors que si vous pensez que tout est déjà conçu par avance, qu'il y a un plan d'univers, le temps n'apporte rien. Il ne fait que développer, il ne fait que... Je veux dire, oui, il ne fait que faire apparaître ce qui est déjà conçu. Oui. Donc là, voilà, c'est...
Oui. Sur la notion d'énergie, d'énergie créatrice, elle nécessite la vie, l'énergie nécessite la vie. Elle est auparavant.
Alors, l'énergie est matérielle. L'énergie, c'est une notion matérielle. C'est cette énergie solaire qui est captée... qui est accumulé dans les plantes, etc. La vie, c'est rien de matériel. Si je regarde bien ce que dit Bergson, c'est rien de matériel. Mais c'est quelque chose qui s'insère dans la matière de telle sorte qu'elle arrive à en capter l'énergie et à en détourner aussi l'énergie. Voilà, vous vous souvenez de ce texte au début qui paraissait bizarre, au début du chapitre 2, où c'est vrai que il dit la chose suivante, je vais vous retrouver le passage, l'évolution créatrice. Comme j'ai deux bouquins, j'en ai un, il est complètement... je peux le prendre parce que aussi. Mais au moins, celui-là, je me repère. L'autre, il est tout propre. Alors, il dit ça au début du chapitre 2. Ah, attendez. Chapitre 2. Voilà. La vie, alors, la résistance de la matière brute est l'obstacle qu'il fallut tourner d'abord. Vous vous souvenez de ça? La vie semble y avoir réussi, il en parle comme d'une personne, à force d'humilité, en se faisant très petite. Ouais, se glisse dans un trou de souris, en quelque sorte. Et très insinuante, biaisant avec les forces physiques et chimiques, consentant même à faire avec elle une partie du chemin, comme l'aiguille de la voie ferrée quand elle adopte pendant quelques instants la direction du rail dont elle veut se détacher. Donc, alors, on ne peut pas parler de la vie comme une matière. Enfin, si c'était une force matérielle, il n'y aurait rien, il n'y aurait pas de courant vital, il n'y aurait que un jeu de force, il n'y aurait que de la nécessité. Il n'y aurait que de la nécessité. Or, justement, ce que veut montrer Bergson, c'est que la vie, c'est un courant de conscience qui introduit de l'indétermination. Ça introduit du jeu. S'il n'y avait que de la matière brute, il n'y aurait que de la nécessité. Rien ne se créerait. Mais la vie, elle s'infiltre, elle s'insère, enfin, je ne sais pas comment dire les choses, elle s'insinue de telle sorte qu'elle tourne en quelque sorte les forces physiques, l'énergie physique, dans une autre direction. Vous voyez, c'est ça que... Et il y a une expression qui revient sans arrêt, regardez, et je la souligne parce que c'est vrai qu'à première lecture, on est un peu dérouté, hein, tout de même. Mais après, on s'en rend compte. Il dit, par exemple, quand il parle du cerveau comme d'un réservoir d'indétermination, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est toujours la même idée, c'est que le cerveau, son mécanisme matériel, c'est un mécanisme matériel, le cerveau, hein, mais tellement complexe qu'il permet du jeu, il permet de l'indétermination, et c'est ça la conscience. C'est cette espèce de vous voyez, de il faudrait trouver d'autres formules, hein. Il y a d'autres formules comme ça dans le texte.
Mais c'est un jeu avec l'information en quelque sorte, parce que c'est pas une notion de l'époque là, c'est celle d'un siècle plus tard, mais Pour que la vie puisse avancer, il faut qu'elle transmette de l'information.
Non, parce que là, vous parlez en termes...
avec du jeu.
Vous parlez toujours en termes physiques, là, en parlant comme ça. Donc, là, Enfin, si je regarde ce que dit Bergson, la détermination, c'est l'imprévisible. C'est cet élément qui ne peut pas être prévu.
Vous voyez qu'il y a du jeu dans l'information transmise.
Alors, il y a du jeu au sens mécanique.
Oui, oui.
Mais ce jeu, au sens mécanique, permet à la vie d'avoir prise, en tant que force matérielle, d'introduire du nouveau. Mais ça, ça peut pas être exprimé scientifiquement. Ça peut pas se dire en termes de loi physique, si vous voulez.
Quelque part, c'est l'explication, enfin, l'explication que toutes ces problématiques-là se positionnent, enfin, même si on ne va pas chercher dans l'univers entier, mais bon, c'est quand même des problèmes... terrestre.
Oui.
Oui. Si on se positionne, on reconsidère tout ça sur Jupiter, on va se dire, et où est l'étincelle de départ, enfin, où est
Oui.
Le,
Il n'y a pas d'étincelle, puisque c'est un courant qui traverse la matière, il n'y a pas de commencement.
Il y a la matière.
Et la matière elle-même, elle est produite par ça. Bon. Enfin, si on suit Bergson. Hein. Bon, là, c'est vrai qu'il faut creuser encore hein, avec lui. Parce que là, c'est. Bon, on balbutie encore avec lui. Là. Mais comment dire. Oui. Oui.
Des conditions sont adviennent à un moment donné pour que.
C'est aléatoire.
C'est aléatoire. Et ça paraît presque plus satisfaisant comme point de départ.
Bah oui et non.
Ah oui.
Parce que. Oui, non, mais je comprends. Non, mais moi, c'est le Bergson qui est en moi qui se réveille. et qui répond. Bah oui, souvenez-vous. Pour Bergson, l'explication darwinienne, matérialiste darwinienne, ne peut pas rendre compte du fait que vous trouviez des organes semblables, comme les yeux par exemple, dans des lignes d'évolution divergentes. Comment se peut-il que vous ayez des yeux, vous, et puis que le mollusque que vous êtes en train de manger, lui aussi, il en a. Enfin, oui, vous comprenez. C'est-à-dire que, comment expliquer, s'il y avait des lignes absolument divergentes, comment expliquer qu'il puisse y avoir des similitudes? Bon, voilà. Alors, je ne sais pas si cette explication suffise.
Non, le problème, c'est l'origine.
Oui, c'est-à-dire que pour Bergson, il y a une impulsion originelle qui produit toute chose, de façon diversifiée, qui s'adapte. Il y a une adaptation aux circonstances. Hein, parce que la rencontre de la matière, c'est l'adaptation. Mais on ne peut pas tout expliquer par la rencontre avec la matière. On ne peut pas tout expliquer par le jeu des circonstances extérieures. Il y a, voilà, évidemment, non, mais là, il faut admettre, à ce moment-là, il faut partir du principe, oui, qu'il y a une source créatrice de l'être, de l'univers. Comme celle que pense Bergson. Et il faut creuser l'idée, parce que c'est vrai que, d'une certaine façon, on est toujours un peu au-dessous de ce qu'il pense. Non, mais c'est vrai, très modestement, parce que c'est vrai qu'on a du mal à se hisser à son niveau, quoi. Non, vous n'êtes pas convaincu, hein.
Si, moi j'ai... les approches voilà, sur le.
Mais moi, ce qui m'a toujours paru intéressant chez lui, c'est qu'il essaie de penser la réalité comme quelque chose qui se fait. Il n'y a rien d'immobile. Le réel est en mouvement. Il essaie de penser cette chose-là, ce mouvement qui constitue toute chose. Il n'y a pas de choses, en fait. Il n'y a pas de choses. Les choses, ça n'existe pas. Enfin, comprenez bien sûr, il y a des tendances. Il y a des êtres constamment en devenir. Il n'y a que du devenir.
Mais il y a le mieux, toujours.
Ah non, le mieux ça supposerait qu'il y a un terme, qu'il y a un but.
Il
n'y a pas de but. Il y a une puissance créatrice. Qui s'exprime au plus haut niveau chez peut-être l'homme. Mais voilà. Parce que si vous parlez de mieux, ça veut dire qu'encore une fois, il y a un plan. Il y a une idée préalable. Voilà, ça non. Voilà, si vous voulez, notre Bergson.
J'ose pas te dire.
Ces petits appareils.